Journal d'Haïti des Amériques, et c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond et bonjour à tous. On va tout d'abord s'intéresser aujourd'hui à l'après-élection au Mexique. La violence a marqué, comme vous le savez, la campagne électorale avec 145 assassinats et elle ne s'arrête pas. Le maire d'une petite localité a été attaqué, ce qui donne l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau président élu Andrés Manuel López Obrador. Un film à l'honneur également aujourd'hui, Femme du chaos vénézuélien, de la franco-vénézuélienne Margarita Cadenas parle du quotidien de ses habitants qui oscillent entre désespoir et désir de survivre dans un pays empêtré dans une crise profonde. Et puis les nouvelles d'Haïti avec Godson Pierre. On parlera aujourd'hui de l'entrée en fonction d'un nouveau conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Bienvenue à tous. La revue de presse des journaux du continent avec Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et on revient donc sur ces élections au Mexique. Les résultats définitifs de la présidentielle confirment un raz-de-marée pour Andrés Manuel López Obrador.
Oui, mais après ce triomphe qualifié d'écrasant par la Jornada, commence aujourd'hui une délicate transition gouvernementale, la transition entre deux projets politiques et économiques substantiellement différents. Le journal s'étonne de la rapidité avec laquelle certaines des craintes les plus aiguës suscitées par cette victoire ont été dissipés, à commencer par l'instabilité des marchés financiers qui, semble-t-il, se sont très vite remis. Le grand défi d'AMLO va maintenant être de se conformer aux attentes de ses électeurs, écrit Proceso en une. Et pour le Washington Post aux États-Unis, AMLO a bien trop de promesses à tenir, justement. Le journal réduit son élection au succès des autres dirigeants populistes dans le monde et le compare à Donald Trump pour sa lutte affichée contre l'establishment.
Et les deux hommes se sont appelé d'ailleurs.
Marie. Oui, Excelsior nous raconte que la conversation a duré environ 30 minutes, qu'elle était respectueuse, si l'on en croit AMLO sur Twitter. Et j'ai proposé, dit-il, d'explorer un accord global des projets de développement qui génèrent des emplois au Mexique et avec eux réduisent la migration, améliorent la sécurité. Je crois que la relation entre nous sera très bonne, a lancé pour sa part le président américain. Et Donald Trump a aussi fait remarquer qu'il y a des années, lorsque López Obrador s'était présenté aux précédentes élections, il avait prévu qu'il serait un jour président du Mexique. Il s'en est souvenu, se félicite-t-il, et c'était vrai.
La presse mexicaine qui s'interroge, que vont devenir ceux qui avaient publiquement promis de quitter le pays en cas de victoire d'AMLO.
Et sur les réseaux sociaux, on leur demande des comptes. Anne, rapporte El Universal, parmi eux se trouve un animateur radio qui, lui, a très vite changé son fusil d'épaule. Écoutez.
Quiero ante todo pedir una disculpa.
Voilà, on l'entend ici dans une vidéo faire son mea culpa, s'excuser auprès de ses auditeurs, du nouveau président aussi. Il assure que ses déclarations étaient liées à son addiction à l'alcool. Il y avait aussi, poursuit El Universal, le fils de l'ancien président Felipe Calderón. Il avait posé en Russie devant un drapeau mexicain, on s'en souvient, qui affichait « Si AMLO gagne, je reste ici ». Eh bien, il est finalement rentré au Mexique dès vendredi pour voter et il l'a fait savoir sur Instagram. « Je rentre et j'y reste ». Il publie d'ailleurs une photo de lui sur la place rouge avec un drapeau mexicain, vierge de tout message cette fois.
Alors l'autre sujet à la une de la presse mexicaine, c'est la chute de l'équipe nationale en huitième de finale de la Coupe du Monde face au Brésil, une vraie malédiction.
Oui, la presse paraît résignée car c'est la septième fois consécutive, Anne, que le Mexique s'arrête à la porte des quarts de finale. Encore une fois, se lamente Larrazón, encore une fois le rêve mexicain s'évanouit en huitième. Pour la cancha, c'est la fin d'une ère. Cette sélection s'éteint pour toute une génération. Et le journal sportif de publier un ensemble de photos de supporters dépités, le cœur brisé, que ce soit en Russie ou dans les fan zones de Mexico.
Et on continue de parler de football. Neymar est à la une, lui aussi aujourd'hui, le footballeur brésilien dont les journaux parlent autant pour son but, son coup d'éclat hier que pour ses talents d'acteur.
Oui, les plongeons et les exagérations de Neymar ont fait de lui le joueur le plus critiqué et le roi des moqueries sur les réseaux sociaux, écrit La Cancha toujours. Extrait vidéo, photo des tournée, la Terra, un site d'info du Costa Rica, en répertorie certaines. Neymar avait déjà une réputation d'acteur sur la pelouse, mais elle ne s'est pas arrangée après ses hurlements de douleur hier, lorsque le joueur mexicain Miguel Layún lui a un peu marché sur une cheville blessée. Le sélectionneur du Mexique l'a qualifié de honte pour le football. Neymar est le joueur le plus cher de l'histoire, reconnaît USA Today, l'un des meilleurs joueurs du monde, un héros national. Mais c'est aussi une honte absolue. Il n'est qu'un faussaire, un plongeur, un simulateur, un acteur ou n'importe quel autre terme utilisé dans le football pour faire passer sous silence le fait que quelqu'un essaie de tricher de façon flagrante et sans vergogne en incitant l'arbitre à punir un adversaire.
Et on continue de parler de Neymar. La presse brésilienne, elle, tente de défendre son héros.
Oui, Neymar qui apparaît à la une d'O Globo, les bras ouverts, tel un Christ sauveur sur les épaules de son coéquipier. Et Neymar enchante le Brésil et irrite le monde, titre le journal brésilien qui rappelle la brillante performance du numéro 10 de la Seleção. Alors que le Brésil se réjouissait, le monde entier était sur la réserve quand il s'est contorsionné de douleur comme s'il allait falloir l'amputer. O Globo précise toutefois qu'il ne faut pas nier l'intention et la force avec laquelle Layoun lui a marché sur la cheville, en rappelant que les jalousies et les critiques peuvent aussi s'expliquer peut-être, car ce sont nous, les Brésiliens, qui bénéficions directement du rayonnement de Neymar. Le monde voit cela différemment.
Merci Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. C'est un film choc dont on va parler aujourd'hui. Son titre, Les femmes du chaos vénézuélien, de la franco-vénézuélienne Margarita Cadenas, qui donne la parole à cinq femmes de milieux différents, qui donne la vision d'une société en perdition. Pina Maria Carolina s'est entretenue avec la réalisatrice qui donc a réalisé ce film, Les femmes du chaos vénézuélien. On l'écoute.
Y en Venezuela la ministra de Salud negó una vez más que exista escasez de medicamentos.
Si en su país se respetan los derechos humanos, ¿por qué torturan?
Cinq femmes dressent le portrait d'un pays au bord de l'effondrement et témoignent de la crise sans précédent que traverse actuellement le Venezuela. Le documentaire « Femmes du chaos vénézuélien » montre ce qu'est le quotidien d'une population qui essaye de survivre à la pénurie de nourriture ou de médicaments dans un pays où la criminalité et l'inflation battent des records. Parmi ces voix, le témoignage déchirant d'une mère qui a vu mourir son fils aux mains d'un policier et qui attend encore que justice soit faite, la réalisatrice de ce documentaire, Margarita Cadenas.
Ces cinq femmes, elles représentent chacune un sujet de la situation chaotique qui vit notre pays. La santé, la pénurie, l'injustice, la peur de vivre dans un pays très, très dangereux à cause de la criminalité et les prisonnières politiques.
Pourquoi des femmes et pourquoi ces cinq femmes?
Premièrement, je voulais avoir un éventail. C'est-à-dire, j'ai choisi cinq femmes différentes, avec des couleurs de peau différentes, des âges, des milieux sociaux différents. C'est une crise qui touche tout le monde. C'est pas uniquement les pauvres. Les pauvres, ils souffrent plus. Mais ça touche toute la société. Et à travers ces cinq femmes, on se rend compte de ça. Et surtout, ce sont des femmes très dignes. C'est débattante. La femme vénézuélienne, c'est une femme active, qui travaille, qui sort. Donc, ça m'a donné vraiment la possibilité de voir plusieurs aspects de la vie quotidienne de chacune d'elles.
Estamos viviendo una situación de crisis, la estamos viviendo.
Vous le dites dans votre documentaire, une partie de l'équipe technique a voulu rester anonyme par peur de représailles. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, à la fin du tournage, l'équipe se réunit avec moi. Ils m'ont dit qu'ils voulaient garder l'anonymat. Ils m'ont dit, toi habites en France, nous on habite ici et on a peur de plus pouvoir travailler ou d'être persécuté. Ou... Voilà, j'ai respecté leur volonté et je profite pour remercier toutes ces femmes qui ont eu le courage de témoigner au visage découvert. Et elles sont toutes dit oui. Il y a une charge très forte d'apporter notre grain de sable.
Femmes du chaos vénézuélien sort en France après avoir été projeté dans de nombreux festivals internationaux.
Mi objetivo es justicia. Que admiten que fue un error. No me lo van a regresar. Quiero verlos. Quiero verlos pagar.
Voilà pour ce reportage de Maria Carolina Pigna. Et le film sort en France demain, le 4 juillet. L'actualité en Haïti, à présent, avec Godson Pierre d'Alter Presse. Et à la une, aujourd'hui, les nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont entrés en fonction en Haïti.
Les 9 membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, instance suprême de l'administration judiciaire, ont prêté serment lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans la matinée d'hier en présence de représentants de grands corps de l'État et de la société civile. Le juge Jules Cantave, président de la Cour de cassation, qui fait office de président du CSPJ, a dressé le bilan de ses 6 ans à la tête de l'institution et s'est réjoui d'avoir travaillé au renforcement de la capacité des magistrats. Il reste beaucoup à faire, a-t-il admis, dans un contexte où le laxisme de la justice est souvent critiqué au niveau de l'opinion publique. En représentation du président du Sénat, le sénateur Jean-Renel Senatus, titulaire de la commission Justice et Sécurité au Sénat, a plaidé en faveur de l'indépendance judiciaire et d'une meilleure administration de la justice. Le mandat de la nouvelle composition du CSPJ s'étale jusqu'à juin 2021, suivant la loi du 13 novembre 2007, instituant cet organe à la tête du système judiciaire en Haïti. La Cour de cassation, la Fédération des barreaux d'Haïti, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix, le ministère de la Justice et la société civile font partie des secteurs représentés au CSPJ.
Autre sujet, Godson, la protection de l'enfance. Les organisations de défense des droits humains plaident en faveur d'une politique publique sur ce sujet sensible.
Cette politique doit participer au renforcement de la famille en tant qu'institution de socialisation et source de bonheur pour l'enfant, préconise la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains, la POHDH. L'irresponsabilité et la faiblesse de l'État représentent une entrave au bien-être de l'enfance, souligne la psychologue Natacha Pierre lors de la conférence débat hebdomadaire de la POHDH. Elle appelle à l'éducation et la formation des parents en vue de garantir la protection des enfants. Dans un document remis à la presse, la POHDH déplore une absence de vision et de volonté des dirigeants pour adopter, faire appliquer les lois et mettre en œuvre des politiques publiques à même d'adresser les vrais problèmes auxquels fait face la population, dont celui des enfants. Une situation qui, selon la plateforme, affecte directement le développement humain et la réalisation des droits en Haïti.
Et puis Godson, après un incident très violent contre un migrant haïtien en République dominicaine, le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés exhorte l'État haïtien à protéger ses ressortissants.
Les autorités haïtiennes doivent accompagner les ressortissants haïtiens en danger, exhorte le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR, suite au cas de rapatriement controversé de Rochenel Jean le week-end écoulé. Rochenel Jean, migrant haïtien en situation irrégulière, a été violemment frappé à coups de machette par des civils dominicains en terre voisine le 26 juin dernier. La victime n'a reçu aucune assistance du côté des autorités haïtiennes, déplore le GAR. L'État a une grande responsabilité dans le dossier migratoire, a fait savoir l'institution. Elle rappelle qu'en février dernier, Jeudesti Prussien, un migrant haïtien de 39 ans, a été assassiné à son domicile à Los Morenos, en République dominicaine, et aucun suivi n'a été fait en Haïti. L'organisme invite les autorités haïtiennes à trouver une entente avec l'État dominicain pour que Rochenel Jean et les autres victimes puissent obtenir justice et réparation.
Merci beaucoup Godson Pierre de notre partenaire Alter Presse en Haïti.
Le journal de l'Outre-mer.
Les actualités ultramarines à présent avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
Et un sujet à la une aujourd'hui très problématique, les îles du sud de l'archipel guadeloupéen, une nouvelle fois menacées par l'arrivée massive des algues sargasses.
Oui, ce qu'on appelle les îles du Sud, là-bas, ce sont des noms qui font rêver. La Désirade, Marie Galante, la Grande Galette, comme on dit, et le petit archipel des Saintes, terre de bas et terre de haut. Des terres, et surtout bien sûr des rivages, où l'on s'attend en effet à un nouveau débarquement d'algues brunes. Sébastien Gilles.
Des prévisions basées sur les images satellites de Sentinel 3 du week-end dernier. Des clichés qui sont restés malheureusement inexploitables tout au long de la semaine dernière à cause de l'importante couverture nuageuse qui régnait alors sur l'Atlantique. Et ces observations tardives nous montrent des radeaux à proximité de l'archipel, au sud-sud-est de Marie-Galante, dans le canal de la Dominique et au sud-est de la Désirade. Des bancs qui, sous l'influence des courants du moment, devraient effectivement nous impacter dans les prochaines heures et tout particulièrement les îles du Sud. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement estime le risque d'échouage à fort pour Marie-Galante, la Désirade et les Saintes. Les Saintes est l'un de ces sites emblématiques, la plage de Pompières, qui sont justement et étrangement la seule ombre au tableau de mesure du sulfure d'hydrogène en date du 28 juin dernier. Les taux, alors compris entre 1 et 5 ppm, impliqués, comme la règle le stipule, un enlèvement immédiat des algues et une information du public avec un accès déconseillé aux personnes sensibles et fragiles. Ramassage qui devra désormais s'opérer dans les 48 heures après échouage, comme l'a encouragé à renfort de subventions le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, lors de sa venue il y a tout juste un mois.
On reste en Guadeloupe, mais on passe de l'eau salée à l'eau douce. Une eau, suite aux dernières fortes pluies, déclarée impropre à la consommation dans les communes de la Basse-Terre, du Sud-Basse-Terre, Basse-Terre elle-même, Baïf, Saint-Claude et Gourbert. Pour les habitants de Baïf, c'est la double peine après qu'ils aient appris tout récemment que l'eau qui coulait de leur robinet avait été polluée et pendant plusieurs jours par des bactéries. Franck Aristide.
Trois types de bactéries ont été retrouvées dans l'eau de Baïf. Des Escherichia coli, des entérocoques et des coliformes totaux. Elles ont toutes une origine fécale, humaine ou animale. Cela signifie donc que l'eau a été contaminée par des sels. Et en voyant les quantités retrouvées, certains spécialistes de la santé ont tout simplement écarquillé les yeux, car les taux auraient pu entraîner, selon eux, des hospitalisations. Dans le cas des Escherichia coli, la limite est fixée à moins d'une unité formant colonie pour 100 ml. Il y en avait 25. Pour les entérocoques, même seuil. Or, il y en avait 12. Enfin, pour les coliformes totaux, la norme est établie à moins de 10. Il y en avait 25. Si souvent, ces bactéries ne présentent pas de risque sanitaire, dans certains cas, les conséquences peuvent s'avérer très graves, voire tragiques, allant de la simple gastro-entérite à des infections urinaires, pulmonaires, rénales, hépatiques, voire des méningites ou même la mort. En 1990, une épidémie d'Escherichia coli d'origine hydrique avait provoqué 4 décès et 32 hospitalisations dans une ville du Missouri. 243 personnes au total avaient été touchées sur une population représentant la moitié de celle de Baïf. Des séquelles à long terme avaient aussi été observées chez certains habitants.
Voilà, ça n'est pas très gai tout ça. Bon après-midi Anne, à demain.
Eh bien tout de même, bon après-midi aussi à vous Benoît Ferrand. Merci pour ce journal La Première Caraïbe. On termine en musique avec Alpha Blondie et Fally Ipupa et le titre Canou. Fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. Merci à Alice Ménard à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve demain. Restez avec nous dans un peu plus d'une trentaine de secondes maintenant. Un nouveau point sur l'actualité sur RFI.